Passionnés, étudiants, professeurs, journalistes ou des invités de tout horizon, Nicolas Boissineau les reçoit pour une immersion au cœur de l'histoire sur Prune 92 FM. Moment d'histoire. L'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps.
Bonjour et bienvenue dans Moment d'Histoire, l'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps. Il est midi, nous sommes sur Prune. L'actualité sportive de ce début d'année est indéniablement marquée par la 9e édition du Vendée Globe. Au départ, 33 skippers, prêts à en découdre avec ce tour du monde que les meilleurs feront en 80 jours. Heureux clin d'œil au roman de Jules Verne. Et sans hésiter, cette course va rester dans la mémoire de la compétition. Un épilogue qu'aucun scénariste, même le plus fou, n'aurait pu imaginer une seule seconde. Le classement final s'est joué dans les dernières heures, avec une arrivée complètement dingue avec 5 bateaux au coude à coude. C'est finalement Yannick Bestaven, originaire de Saint-Nazaire, qui s'impose. On note la participation du Nantais Armel Tripon qui navigue sur un bateau aménagé avec l'aide de l'Université de Nantes. Mais cette édition est aussi marquée par le sauvetage miraculeux de Kevin Escoffier par Jean Le Cam. Le 30 novembre dernier, à 60 milles du Cap de Bonne-Espérance, Escoffier déclenche sa balise de détresse. Et après 12 heures dans un radeau de survie et dans des creux de 5 mètres, il est recueilli sain et sauf par le vieux loup de mer. Ce fait d'armes rend populaire le sympathique Jean Le Cam, qui termine au pied du podium. À ce sujet, il déclare « Les choses ont fait que j'ai fini quatrième à la place du con, j'ai soulagé l'éventuel con qui aurait pu être à ma place, comme quoi ma générosité n'a pas de limite. » Ce marin solitaire, un peu bourru, sans filtre mais attachant, nous rappelle un autre navigateur iconique, Éric Tabarly. L'incarnation du français intrépide, courageux, modeste, meneur d'homme et têtu comme une bourrique. Disparu tragiquement en mer en 98, ce Nantais marin génie devient célèbre avec sa victoire sur la Transat en solitaire en 76, accueilli en héros. Considéré comme le pionnier du renouveau de la voile classique de compétition, celui qui fut aviateur durant la guerre d'Indochine est devenu une légende avec ses expéditions aux quatre coins du globe. Je propose de revenir aujourd'hui sur son histoire. Sous un air de French 79, prenons le large avec Éric Tabarly.
Moment d'histoire.
L'histoire de Nantes a toujours été liée à la mer. Une rencontre entre Bretagne et Pays de la Loire. Entre passé et futur. Entre culture et ville. Entre terre et mer. Loire et océan. Pas étonnant qu'un des plus grands skippers de l'histoire y soit né en 1931, Éric Tabarly. En 1938, son père Guy Tabarly achète un voilier construit en 1898 et dessiné par le célèbre architecte William Fyfe. Les propriétaires précédents l'avaient baptisé Pendwick, signifiant littéralement « petite tête noire ». Pen égale tête, du, noir, hic, petit. Et en breton, ça veut dire « mésange noir ». Et son histoire est riche. Durant les années de guerre, sa quille de plomb doit être réquisitionnée par les Allemands, mais le matelot en charge du bateau leur expliquera que celle-ci est en fonte et le sauvera de sa démolition. En 1949, le bateau est dans un tel état que c'est le père d'Eric qui décide de le vendre. C'est sans compter sur l'obstination de son fils, prêt à tout pour le garder. En 1952, il intègre l'aéronavale et se porte volontaire pour voir du pays. Et gagner une solde qui lui permettra d'investir pour restaurer son bateau. Il est admis comme pilote sur des bases au Maroc pour ses débuts. Il sert ensuite l'armée française en Indochine, qui met en œuvre des patrouilles durant la guerre. Il effectue environ 1000 heures de vol. Son rôle était de repérer les zones de largage pour les parachutistes. Il racontait à Patrick son frère ses vols casse-cou en rase-motte à bord d'un Lancaster. Après ses atterrissages, il ôtait les épingles collées aux roues pour ne pas se faire engueuler. C'était ça, Tabarly. Toujours repousser les limites avec son physique hors norme, malgré son 1m67. Pour lui, le corps était une machine qui doit fonctionner. Il s'entraînait énormément. Des pompes du sol main, trapèze, aviron, vélo, course à pied, gym. Plus jeune, il a aussi pensé devenir bûcheron. Mais lorsque la tronçonneuse a fait son apparition, il a renoncé. Ne pas avoir d'efforts à fournir, c'était trop simple. En 1956, il peut commencer à remettre en état Pendwick, mais il s'avère irrécupérable. Eric a alors une idée, il moule sur la coque en bois d'origine, une coque neuve en stratifié polyester. Une prouesse technique pour l'époque. En 1959, Pendwick renaît et navigue à nouveau. Je vous propose de poursuivre les aventures du jeune Eric Tabarly après une pause musicale.
طاب الليمون عالشجر يمين يهز الشجر لما رواه المطر عبي بيحجره Thank you.
C'était Lemon de Bachar Markalif.
Moment d'histoire. L'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps. Animée par Nicolas Boissineau tous les 3e jeudi du mois, entre midi et 13h sur Prune 92 FM.
Nous sommes de retour dans Moment d'Histoire, l'émission consacrée à l'histoire nantaise. Et aujourd'hui, on revient sur une figure iconique, Éric Tabarly. Avant la pause, on évoquait la jeunesse d'Éric, influencée par les navigations sur son bateau familial, Pendwick, son appétence pour l'effort physique et son passé de pilote de reconnaissance durant la guerre d'Indochine. Nous sommes désormais en 1960. Il quitte l'aéronavale pour rejoindre la marine. Intelligence moyenne, peu travailleur, excellent marin, observe-t-on sur son dossier de l'école navale. Si ses supérieurs le reconnaissent peu enclin à suivre la discipline militaire, ils voient en lui un symbole de la marine nationale que pourrait incarner le jeune Tabarly. Tant ses talents de régatier sont criants. Grâce à son statut d'officier détaché à plein temps, il peut s'adonner à sa passion et courir les océans. On lui octroie du temps pour s'entraîner assidûment aux compétitions nautiques, accompagné de jeunes appelés au service militaire qu'il forme et qui deviendront pour la plupart de grands marins. Olivier de Kersauson, Jean Le Cam ou encore Titon Lamazou. Dans une discipline récente qu'est la course au large dans les années 60, Tabarly est rapidement une référence incontournable. En 1964, il se lance dans la transat anglaise, traversée de l'Atlantique en solitaire, dont les Anglais détiennent la suprématie. Pour cette occasion, il invente un nouveau bateau, Pendwick 2, qui a été le premier voilier conçu spécialement pour une transat en solitaire. Résultat, il emporte la victoire avec presque 3 jours d'avance. En quelques jours, une légende est née. Décoré de la Légion d'honneur par le général de Gaulle, sportif humble et talentueux, Éric Tabarly fait rêver les Français. Mais c'est 12 ans plus tard, dans la transat de 1976, complètement folle, qu'il remporte sa course la plus mythique. Départ, 125 concurrents. 78 arrivent. Je vous propose d'écouter un reportage d'Antenne 2 du 26 juillet 1976 à ce sujet.
C'est officiel, depuis dimanche, la 5e course transatlantique est terminée. Ceux qui n'y connaissent rien peuvent s'indigner, car en effet, ils ne sont pas tous arrivés, mais il n'y a pas à discuter, à peine à le déplorer. Cette course transatlantique restera la plus dure, celle des grandes tempêtes. Ils étaient 125 au départ, après 43 abandons, 73 ont touché le port, 9 se battent toujours sur la mer. Et puis il y en a trois dont on n'a aucune nouvelle, trois dont on n'entendra peut-être jamais plus parler. Oui, ce fut une transat particulièrement dure.
Jester, c'est le seul bateau qui a participé sans problème aux 5 éditions de la Transat. Tous les voiliers de cette 5e course n'ont pas eu la même fortune, semble-t-il. Une victime, c'est sûr, le numéro 6, Mike Flanagan, sur un bateau de 12 mètres. Son voilier a été retrouvé vide par un cargo. Le barreur a sans doute été emporté par une lame. Restent 3 Britanniques dont on est sans nouvelles, Simon Hunter, Jonathan Virden et Mike McMullen. Les deux premiers sont partis sur de petites unités, des voiliers de 8 mètres. Le troisième, sur Swishers, ce trimaran de 14 mètres. L'inquiétude est grande en ce qui concerne le sort de McMullen. On parle de suicide en mer. Jeune marié, la veille du départ, sa femme s'était électrocutée en travaillant sur le bateau. Que ce soit à cause du matériel ou des hommes, la mer a tué sans doute pour la première fois dans l'histoire de la Transat.
C'est dommage, évidemment, qu'il y ait des accidents dans cette course, mais je pense que il y en avait beaucoup qui, au départ, n'étaient pas du tout préparés, ni eux-mêmes, ni leur bateau, à affronter des temps comme on a eu. Et ça, quand j'étais dans le mauvais temps, hein, j'étais à peu près certain qu'il y aurait des accidents avec un temps pareil.
La mer a frappé. Il est vrai que par la taille ou la construction de certains voiliers, s'apparentait plus aux dériveurs côtiers qu'aux bateaux de haute mer. La réglementation sera sans doute plus exigeante en 80. La Transat 76, c'est celle du rappel à l'ordre.
D'autre part, on peut dire quand même que ce rappel à l'ordre va peut-être être bénéfique pour les années à venir et va tout au moins permettre aux plaisanciers moyens de se rendre compte que l'Atlantique Nord, le mauvais temps, c'est quelque chose qu'il faut aborder avec beaucoup de prudence. Et on avait un peu peur dans les milieux spécialisés de voir des gens à la suite de la Transat 72 partir en famille, traverser l'Atlantique Nord parce que tout se passait bien, parce que c'était un lac. Et je me souviens d'avoir entendu personnellement des réflexions en disant « mais l'Atlantique Nord, on nous en a fait un monde » et malgré tout ça semble très facile.
Archives audio mises à disposition sur le site de l'INA. Vous l'avez bien compris, dans des conditions inouïes qu'un scénariste n'aurait pas pu inventer, à la barre en solitaire de Penduic 6, pourtant prévu pour un équipage de 14 personnes, et malgré des conditions météo dantesques, après quelques jours de silence radio et une inquiétude populaire, Tabarly est de nouveau premier à couper la ligne d'arrivée, accueilli en héros.
Alors vive Tabarly, vive Cola, et d'abord honneur au premier qu'Alain Schneider a rencontré après son arrivée sur le quai à Newport.
Oui, Tabarly, comment s'est passée cette course? Racontez-nous un petit peu.
Assez dur dans l'ensemble, hein, parce qu'on a eu beaucoup de mauvais temps, beaucoup de vent debout, et puis des calmes pour finir, ce qui n'était pas marrant non plus.
Alors, premier incident au tout début, semble-t-il, l'absence de pilote automatique.
C'est ça, oui. 4 jours après le départ, mon pilote automatique s'est cassé. Là, j'étais sur le point d'abandonner parce que je me disais, sans pilote, c'est vraiment trop dur de continuer. Puis finalement, j'ai continué.
Et le moral est revenu et il y a eu cette fameuse dépression. Alors, pour vous, comment s'est-elle passée?
C'était une dépression très, très forte. Oui. Moi, j'ai mis à la cape et ça s'est fort bien passé.
On a parlé de creux de 10, 12 mètres.
Ça, je suis bien incapable d'évaluer les hauteurs de creux. Je suis sûr qu'on se trompe à tous les coups qu'on veut évaluer quelque chose dans ce genre de choses.
Il y a eu ensuite la fin de course. Avez-vous été gêné par le brouillard ou par l'absence de vent?
L'absence de vent, oui. Le brouillard, ça gêne dans le sens que on est gêné pour sa navigation. C'était très difficile d'avoir un point parce que il y avait vraiment très peu d'éclaircies pour pouvoir prendre des hauteurs de soleil et tout ça. Donc il y avait pendant pas mal de jours, quelquefois j'ai pas eu de point, mais enfin, à part ça, le brouillard, ça n'empêche pas le bateau de marcher. Tandis que pas de vent, oui, ça c'est gênant. Oui. Depuis 4 jours, là, j'ai des temps merdiques. Alors là, sans pilote automatique, je sais qu'avec les petites brises portantes et tout le bazar, là, ça fait pratiquement 4 jours que je dors pas.
Eric, partout en France, il faut le dire, on s'est inquiété. Absence de nouvelles totales de votre part. Était-ce volontaire ou étiez-vous dans la possibilité d'en donner?
C'est volontaire en ce sens que, du reste, j'avais prévenu, hein, tout le monde savait que je ne donnerais pas de nouvelles, parce que j'aime pas me servir des postes de radio. J'y connais rien là-dedans d'abord, et puis ça consomme du courant, il faut faire tourner des groupes et tout, c'est un bin, c'est épouvantable. Et je pense que j'aurais pas pu, parce que là, hier après-midi, j'ai voulu appeler ici pour dire que j'arrivais, et puis l'appareil ne marche pas. Alors. Ou j'ai pas su le faire marcher, peut-être.
C'est un petit peu une victoire sur Alain Colas que vous remportez.
Alain Colas, pas plus que lui qu'un autre. Hein, c'est concurrent comme un autre.
Est-ce que finalement Pendwick s'est révélé relativement facile à manœuvrer pour toi tout seul ou non?
Ah, c'est dur physiquement. Hein, c'est, ouais. Il faut du muscle. Hein.
Ah bon, ça va? De ce côté-là, c'est...
De ce côté-là, ça ouais. Va à peu près.
Ouais.
Sur les visages de tous ceux qui, comme nous, ont attendu anxieux des nouvelles d'Éric Tabarly pendant plusieurs jours, la joie est évidente. Mais si pour Tabarly, la course est terminée, elle ne l'est pas pour de nombreux concurrents moins expérimentés que lui, dont on est encore sans nouvelles. Souhaitons qu'ils parviennent à bon port, sains et saufs. Alain Schneider, TF1, Boston.
Tabarly, vainqueur de la Transat 76. Entre-temps, il y aurait eu le Grand Chelem de Pendwick 3 en 1967, 7 victoires en autant de courses, la victoire de Pendwick 5 dans la Transpacifique en solitaire en 1969, avec une nouvelle fois 10 jours d'avance sur ses concurrents, puis suivront le record de l'Atlantique Nord en 1980 sur Paul Ricard, et la Transat Jacques Vabre en 1997 avec Yves Parlier, pour ne citer que les courses les plus connues. Marin d'exception, Éric Tabarly n'a cessé d'être le précurseur en matière de construction de bateaux. À la mémoire de son premier bateau, il donnera toujours le nom de Pendwick à ses navires qui remporteront des courses dans le monde entier. Et tout de suite, une pause musicale.
これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Y'all can stop me now, listen to me now. I'm lasting 20 rounds, and if you want me, then come on get me now. Is you with me now? Then biggie, biggie bounce. I know you dig the way I switch my style.
Holla, holla.
People sing around, now people gather round, now people jump around. Get your freak on, get your freak on.
Get your freak on. Get your freak on.
C'était Get Your Freak On de Missy Elliott. Nous sommes de retour dans Moments d'Histoire.
Moments d'Histoire, l'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps. Animée par Nicolas Boissineau tous les 3e jeudis du mois, entre midi et 13h sur Prune 92 FM.
L'émission d'aujourd'hui est consacrée à Éric Tabarly. La Marine nationale le voyant comme un symbole de la représentation de la France au niveau sportif, lui donne l'opportunité au début des années 60 de se consacrer entièrement à la course au large. Résultat, 3 décennies plus tard et un palmarès bien rempli, il est considéré comme le pionnier de la discipline, tant à ses exploits sportifs que par ses innovations. Il quitte la Marine nationale en 1985 avec le garde de capitaine de vaisseau. Fatigué par l'environnement autour du sport, il se délaisse peu à peu des compétitions. Malgré sa réputation, il a parfois du mal à trouver des sponsors. Par les budgets, l'enquiquinait. Une anecdote résume tout. Un jour, le patron de Côte d'Or dit à Paul Ricard « Moi, Eric, j'arrive à en faire ce que je veux. » Eh bien, le lendemain, au départ de la route du Rhum, qu'Eric courait sur Côte d'Or, le patron de la marque regarde Eric s'élancer. Il était vêtu d'un t-shirt Paul Ricard. C'était tout simplement celui qu'il voulait porter. Outre le marketing sportif, Tabarly ne souhaitait pas s'ennuyer avec les instruments modernes de navigation. Les premiers GPS, les tablettes, les crayons optiques, ordi et autres simulateurs de route. En plus, il supportait mal l'odeur du papier thermique. Eric, c'était la navigation à l'estime, au sextant, à la dure, comme les anciens, et foncé. Simple, bon vivant, son frère Frédéric rapporte dans une interview de Paris Match en 2018. Que son plaisir, c'est d'être avec les copains, les pique-niques dans la nature, le petit coup de rouge, il était heureux. À bord, il y avait une bonne cave. Je ne l'ai jamais vu boire de l'eau. À l'issue de sa carrière sportive, Tabarly entreprend entre 1985 et 1989 la rénovation complète de son bateau d'enfance, qui devient celui de ses vieux jours. Après 6 décennies de vie d'intense effort, son frère Frédéric rapporte qu'Eric se voit diminuer physiquement. Je cite « Il était atteint d'une maladie appelée la maladie du cocher. Ses deux mains étaient touchées. Il a subi 2 opérations. Une médiocre, la seconde plus efficace. Les médecins ont ouvert l'angle de ses doigts presque en forme de crochet. Mais ça le gênait juste un peu. Ses yeux, par contre, pour conduire, à certains moments, il ne voyait pas grand-chose. Mais il n'a jamais voulu porter de lunettes. Pour lui, c'est comme un handicap, et il ne voulait pas se montrer avec un handicap. Je pense qu'Eric n'aurait pas aimé se voir vieillir. Ce ne fut pas le cas. Le 13 juin 1998, il disparaît en mer. Nous reviendrons sur ce drame dans quelques instants.
ashamed to see.
C'était Al Green, Let's Stay Together.
Moment d'histoire. L'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps. Animée par Nicolas Boissineau tous les troisièmes jeudis du mois, entre midi et 13h sur Prune 92 FM.
Nous sommes de retour dans Moment d'Histoire consacré à Éric Tabarly. Malheureusement, il disparaît en mer d'Irlande dans la nuit du 12 au 13 juin 1998, alors qu'il convoyait Penduick en équipage pour fêter les 100 ans du navire, lors d'un rassemblement de voiliers en Écosse. La météo était mauvaise. Ils ont dû s'abriter en Angleterre. Éric voyait le temps passer. Il ne souhaitait pas arriver en retard en Écosse. Il n'a pas voulu attendre un jour ou deux de plus. Penduick reprit la mer. Vers 22h30, au cours d'une manœuvre pour réduire la voilure, la corne qui bat au vent vient taper Éric Tabarly contre la poitrine et le projette en mer. Cet accident est un concours de circonstances. Ses coéquipiers n'ont rien pu faire pour le récupérer. Le soir même, dans son JT de 20h, France 2 consacre un reportage. Je l'ai retrouvé accessible sur l'INA.
Madame, Monsieur, bonsoir. C'est en milieu d'après-midi que nous est parvenue l'annonce de la disparition en mer d'Éric Tabarly au large du Pays de Galles. Il n'y a pratiquement aucune chance de retrouver vivant le navigateur passé par-dessus bord au cours de la nuit dernière. Dans un instant, nous reviendrons sur les circonstances de l'accident. À l'évidence, l'émotion est grande, elle touche au cœur chacun d'entre nous. Éric Tabarly incarne l'image du marin français et son nom est pour toujours lié à celui des Penduick. Ironie du sort, c'est à bord du premier de ses voiliers, le Penduick 1, qu'Éric Tabarly est tombé à la mer la nuit dernière. Luc Bazizin.
C'est de ce bateau qu'Éric Tabarly est tombé à la mer la nuit dernière. Penduick 1, son premier amour de navigateur, Éric Tabarly aurait chuté en allant changer de voile. Il revenait des îles Britanniques avec un équipage de 4 personnes. Il est la seule victime de cet accident survenu au large du Pays de Galles, à environ 80 km des côtes de Milford-Haven. Les passagers du Penduick, peu expérimentés, n'ont réussi à prévenir les gardes-côtes britanniques que tôt ce matin.
Nous avons été alertés à 7h ce matin par un voilier de plaisance qui avait repéré une fusée de détresse. Mais ça faisait plus de 7h qu'Éric Tabarly était tombé dans la mer. La mer n'était pas très mauvaise, pour ce genre de bateau en tout cas. Le vent était de force 5, orienté sud-est. Évidemment, on peut considérer que l'expérience de M. Tabarly compensait l'inexpérience de ses passagers. Mais avec un accident comme celui-là, ils n'ont pas su comment diriger le bateau pour retrouver Éric Tabarly une fois qu'il était passé par-dessus bord. Personne n'a pu diriger le bateau. Et ça, c'est vraiment malheureux.
Si les Britanniques ont abandonné leurs recherches, du côté français en revanche, la Marine nationale a envoyé un brigand atlantique, un avion, arrivé sur zone il y a tout juste 3 quarts d'heure.
Si jamais ça n'a rien donné, donc vers le coucher du soleil, vers au pire 23h, ça n'a rien donné, on reprendra demain matin.
Et est-ce qu'à votre avis, plus de 12 heures après être tombé dans l'eau, il y a des chances de le retrouver vivant?
On est un peu pessimiste, on pense pas, mais tant que Stabari a disparu et qu'il n'est pas considéré comme mort, on continue les recherches, quoi.
Quelques semaines plus tard, son corps est repêché à 80 km des côtes irlandaises par des marins bretons. Même s'il est devenu méconnaissable, il porte encore les bottes bleues, son célèbre pantalon de coton rouge, ainsi que son pull marin bleu marine avec l'inscription « Eric Tabarly ». Son épouse, Jacqueline, livre publiquement quelques mots touchants après sa mort.
« La mer n'est pas méchante. Vous dites, la mer l'a pris, mais elle ne l'a pas volé. Elle n'a été que le moyen pour lui de revenir dans la maison du père. Il faut que vous le croyiez. » Elle est la matrice dans laquelle il est revenu et vous ne retrouverez pas son corps. Il aimait la France, il aimait la mer, il aimait ce lien qu'était le bateau entre la France, la mer, les hommes. Je ne sais pas bien parler et vous transmettre ceci, mais la France, pour lui, avait un rôle à jouer dans le monde à venir, et ceci par la mer.
Après sa mort, de nombreux artistes lui ont rendu gloire à travers leurs chansons. Les fonds musicaux de cette émission sont issus de l'album Hommage de Ian Tersen. Je vous propose maintenant d'écouter Eric par les Marins d'Iroise.
En mer, tu mènes ta vie, quand sur terre tu l'as subi. En mer, tu fabriques ton destin, quand sur terre tu n'y peux rien.
En mer, tu reconnais un homme, quand sur terre tu n'es plus personne. En mer, tu
sur terre, tu banalises l'horreur. En mer, tu respectes ton ennemi. Quand sur terre, tous les coups sont permis.
En mer, tu salues la tempête.
Exception, Eric Tabarly a transformé avec ingéniosité la voile classique en sport de compétition et imaginé ses bateaux pour la performance, multipliant les innovations. Avec lui, la France a découvert le monde maritime. Il aimait ce lien que représente le bateau, entre la mer et les hommes, et a su de son vivant transmettre aux jeunes sa passion. Toute une génération de navigateurs s'est formée à son bord, comme sa fille Marie, qui a récemment repris la barre de Penduick 6 pour son projet Element Terre, engagé dans la préservation de l'environnement. Les sources pour réaliser cette émission sont issues du site de la marque Éric Tabarly et Wikipédia pour la biographie. De France Bleu, Paris Match et du site de la Cité de la Voile de l'Armor Plage pour les anecdotes, et bien entendu de nombreux visionnages de documentaires télévisuels et d'archives INA qui m'ont permis d'avoir une vision sur cette figure nantaise d'exception. C'est déjà la fin d'émission, vous pouvez retrouver le podcast sur le site de Prune ou sur la page Facebook Moment d'Histoire-Prune92FM. Chers auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. On se retrouve au mois de mars pour une nouvelle immersion au cœur de l'histoire. On se quitte avec la magnifique chanson Éric Tabarly de Yann Tersen. Merci, bon après-midi.
Passionné, étudiant, professeur, journaliste ou des invités de tout horizon, Nicolas Boissineau les reçoit pour une immersion au cœur de l'histoire sur Prune 92 FM. Moment d'histoire. L'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps.